radio primitive.
Faites votre radio vous-même.
I'm forever locking myself in the glass of your review. Trying to make friends with the friends you're close to. If you ever leave, I'm coming with you.
Ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors, chaque semaine sur l'écho du Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste. Allez, bonsoir. Eh bien, écoutez, comme vous l'avez dit la semaine dernière, on va se farcir, on peut dire, la deuxième partie de sortir du capitalisme,
Pas seulement du capitalisme, aussi et du nucléaire.
Vous avez pu entendre la première partie la semaine dernière. Si vous l'avez ratée, vous pouvez la réentendre sur le site spectremedia.com ou sur le site d'ailleurs de l'OCL ou le blog du Chat Noir 51. Bon, alors la première partie, c'était quoi? C'était grosso modo, il y avait beaucoup de choses qui étaient dites. Ça, c'est ça qui est un peu dur peut-être hein, pour les auditeurs, mais bon, c'est sûr que c'est un peu costaud, quoi. Alors, la première partie, il y avait l'histoire des classes sociales qui était abordée d'une manière, hein, et les rapports de classe. Il m'a semblé très chouette. Il y avait aussi les Trente Glorieuses qui étaient abordées, puisque les Trente Glorieuses, ça n'a pas été les Trente Glorieuses pour tout le monde. Il y a eu les immigrés, surtout, qui ont passé à côté, qui travaillaient dans la sidérurgie, mais aussi ailleurs, au niveau de toutes les usines qu'il y avait en France. Il y a eu aussi les femmes qui sont passées à côté de ces Trente Glorieuses. Alors ensuite, il y a eu, dans cette première partie, un certain nombre de choses, en particulier sur la social-démocratie au pouvoir, ces trahisons. En fait, est-ce que ce sont des trahisons ou est-ce que finalement, elle ne peut faire que trahir, de fait, hein, puisqu'ils disent des choses qu'ils ne peuvent pas faire s'ils ne remettent pas en cause véritablement le capitalisme. Ensuite, on va peut-être écouter la deuxième partie, à moins que tu aies des trucs à rajouter.
Oui, non, c'est ce que tu disais, hein, il y avait un retour sur l'expérience socialiste au pouvoir.
En 80,
à l'époque, en plus, où la définition du socialisme était le passage d'un état du capitalisme à un autre état par la conquête du pouvoir et de ses institutions, c'est-à-dire de mettre les outils de l'État et de la force étatique, donc ce courant du mouvement ouvrier qui propose, en proposant d'accéder soi-disant démocratiquement au pouvoir, de faire basculer donc d'un type d'une société, on va dire, libérale, bourgeoise, etc., une type de société régulée, en faveur de la majorité de la population, donc de la population laborieuse, et l'échec de cette expérience, et puis une comparaison de cette expérience-là des années 80 avec aujourd'hui l'expérience dite de la gauche, de l'Union populaire, de Mélenchon. Enfin, vous voyez bien de tout ce qui pourrait s'apparenter de près ou de loin.
En s'appuyant aussi sur ce qui s'était passé au Chili.
C'est ça.
Ce qui s'était passé en Grèce. Il a cité aussi Lumumba.
C'est ça, il y avait une critique aussi, effectivement, de Lumumba et de ces tentatives, en fait, de passer à une forme d'organisation sociale différente, alors qu'on appelle socialisme, on va pas revenir là-dessus, mais ça a une définition particulière dans l'histoire du mouvement ouvrier, par l'intermédiaire des institutions étatiques et des outils, quelque part, de la République, ou en tous les cas des outils de la gestion, qui a été formée la plupart du temps par la bourgeoisie, en tous les cas, lorsqu'elle est arrivée au pouvoir et qu'elle a remplacé la noblesse lors des différentes révolutions qui ont mis fin à l'ancien régime. Donc oui. Voilà, nous y voilà déjà dans le cœur du sujet. On va se taire pour pouvoir aborder effectivement la deuxième partie, puis on aura l'occasion de disserter dessus. Alors allons-y. Ah. Presque.
Fait que Syriza s'est retrouvé à devoir implanter une politique austéritaire pour sauver l'économie grecque. Alors en disant ça, je dis pas que les politiques néolibérales et d'austérité adoptées par Syriza étaient absolument nécessaires, en tout cas dans la forme qu'elles ont prise. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la Grèce était dans une situation économiquement catastrophique quand Syriza a pris le pouvoir, avec des dettes énormes, et que ces dettes, sauf à les annuler unilatéralement et à risquer une guerre, parce que concrètement, c'est le genre de risque qui peut se passer, ou au moins à risquer un blocus économique total, enfin disons des mesures de rétorsion qui rendent la vie aux populations grecques impossible. La seule solution, c'est qu'il fallait repayer une partie de cette dette, et donc il fallait accepter l'agenda, notamment du Fonds monétaire international, et de l'Allemagne notamment, et l'Union européenne plus généralement. C'est ce qui fait que, bah, par exemple, il fallait pas abandonner l'euro, puisque abandonner l'euro, ça aurait permis de mettre en place une monnaie nationale qui aurait permis de restaurer, entre guillemets, la compétitivité de l'économie grecque sur le plan des exportations. C'est, disons, ce qu'on entend beaucoup à gauche et à l'extrême gauche. Mais bon, c'est vrai quand même, surtout parmi ceux qui veulent le retour à une monnaie nationale en France, par exemple le retour au franc. Effectivement, ça permet, en baissant artificiellement le coût de la monnaie, de vendre moins cher sur les marchés internationaux. Le problème, c'est que du coup, ça fait que les importations sont aussi plus chères. Et ça veut dire aussi que, par exemple, dans le cas de la Grèce, qui est une économie extrêmement dépendante du tourisme, ça veut dire que potentiellement, il y aura beaucoup moins de touristes qui vont venir, puisque du coup, sortie de la zone euro, etc., etc. Donc, ce que Syriza a fait, c'est certes, dans une certaine mesure, une trahison de pourquoi ce parti avait été élu, mais c'est aussi un parti qui, en refusant de rompre avec l'ordre bourgeois, a dû, du coup, tenir compte des contraintes structurelles du capitalisme, et notamment du fait que dans le capitalisme, quand un État a des dettes, il doit les rembourser au moins dans une certaine mesure. Alors après, il y a des annulations de dettes partielles qui sont toujours possibles. Mais disons, toute la dette grecque n'aurait pas pu être abolie, en tout cas pas unilatéralement, parce que sinon ça aurait créé un climat de guerre, sinon de guerre militaire, au moins de guerre économique. Donc finalement, l'expérience de Syriza, ça montre que finalement, la gauche, quand elle prend le pouvoir par les élections, elle prend le pouvoir politique, mais elle se contente en fait de récupérer la gestion d'un État qui doit tenir compte des contraintes impersonnelles du capitalisme, à la fois pour son propre financement, donc là c'est la question de la dette, c'est-à-dire que l'État, ayant contracté des dettes, est obligé de rembourser ses dettes, sauf à risquer une guerre économique ou une guerre militaire, et d'autre part, est obligé de gérer le bon fonctionnement du capitalisme grec, parce que sinon, la vie des populations peut éventuellement encore empirer, et puis après, plus structurellement, parce que si l'économie grecque va encore plus mal, ça fait moins de financement, ça fait plus de dettes, et ça veut dire aussi que, in fine, par exemple, les programmes sociaux, les programmes éducatifs, les programmes de santé peuvent manquer encore plus de budget. Donc c'est-à-dire que c'est pas pour dire que ces contraintes impersonnelles, et ça je veux être clair là-dessus, que ce serait une sorte de loi des reins qui ne pourrait être interprété que d'une manière. Bien sûr que Syriza aurait pu faire peser un peu plus la crise sur les classes dominantes et un peu moins sur les classes populaires grecques. C'est évident. Et les politiques néolibérales, si souvent, et notamment les politiques d'austérité, si souvent elles répondent à un besoin plus ou moins fort, disons, effectivement, de prendre ce genre de mesures pour le bon fonctionnement de l'économie, ces mesures vont toujours être prises dans le sens de défavoriser au maximum les classes populaires et au contraire de favoriser au maximum les classes dominantes. Effectivement, ces contraintes structurelles, donc, elles ne sont pas aussi fortes que ce qu'on le dit, parfois, il faut le reconnaître, hein, ces contraintes structurelles, parfois, elles sont un peu exagérées à des fins politiques, et notamment pour favoriser la grande bourgeoisie. Elles ne sont pas aussi unilatérales qu'on le dit, c'est-à-dire que on peut les gérer d'une manière ou d'une autre, d'une manière un petit peu plus sociale ou d'une manière un peu plus en faveur de la grande bourgeoisie, mais il n'en reste pas moins, malgré tout ça, que ces contraintes structurelles, elles existent, et que, sauf à rompre radicalement avec l'ordre bourgeois et à risquer une guerre économique ou une guerre militaire, eh bien, la social-démocratie au pouvoir est obligée d'en tenir compte. Et je dis pas ça pour justifier la social-démocratie, qui historiquement a trahi quasiment à chaque fois qu'elle a pris le pouvoir les idéaux pour lesquels elle s'était fait élire, et le mouvement social qui les a portés, mais pour autant, et ça je pense que c'est quelque chose qui est important, c'est-à-dire que oui, la social-démocratie a souvent trahi ses idées, mais est-ce que le problème, ce n'est pas finalement le mode d'émancipation sociale qui était envisagé par la social-démocratie, c'est-à-dire la prise du pouvoir d'État avec l'idée de changer l'économie par des réformes. Et c'est pour ça que ça a systématiquement échoué, parce que du coup, en récupérant le pouvoir d'État, les gouvernements sociaux-démocrates se sont retrouvés à devoir gérer et à faire face aux contraintes impersonnelles du capitalisme, du marché, et donc, à chaque fois, se sont retrouvés, entre guillemets, disons, dans l'impossibilité de fondamentalement réformer le capitalisme, voilà, d'améliorer vraiment significativement la vie des populations, etc., etc. Et donc après, bon, bah, soit elles se sont fait évincer parce que finalement, les peu de choses qu'elles tentaient allaient déjà trop loin pour la grande bourgeoisie, soit elles ont fini par abandonner complètement ce programme en se disant, c'est plus facile de gérer ça, finalement, comme la droite le gère.
Mais du coup, je dirais aussi que la perspective de gestion de crise social-démocrate se rétrécit. La forme que prend le capitalisme avec la période néolibérale, c'est-à-dire que l'internationalisation de la finance fait en sorte que s'attaquer au capital, au grand capital, devient de plus en plus compliqué.
Oui, oui, c'est clair que effectivement, les gouvernements sociaux-démocrates ont jamais eu une marge de manœuvre, disons, aussi faible qu'aujourd'hui. Effectivement, lorsque le capitalisme s'inscrivait dans un cadre strictement national, ou globalement national, disons, comme ça a été le cas dans une grande partie du 19e siècle et un peu au 20e siècle, c'était déjà plus le cas après 1945, effectivement, il y avait la possibilité, disons, plus forte en tout cas, de réformer le capitalisme. Sauf que bon, à cette époque-là, ça ne s'est pas produit puisque le rapport de force était tellement en faveur des classes dominantes que il y a eu aucun gouvernement social-démocrate qui arrive au pouvoir. Le premier gouvernement social-démocrate qui arrive au pouvoir, c'est en 1918 en Allemagne, avec l'accession au pouvoir du SPD, dont les premiers actes a été de réprimer la révolution en Allemagne en alliance avec l'extrême droite et l'armée. Donc effectivement, bon, pas un début en fanfare de l'histoire de la social-démocratie. Ce qui est important, effectivement, c'est que cette marge de manœuvre, effectivement, elle s'est rétrécie au fur et à mesure du temps, avec la mondialisation du capitalisme, qui fait que les entreprises nationales sont de plus en plus dépendantes de la conquête de parts de marché à l'extérieur, l'économie nationale est de plus en plus dépendante des importations et des exportations, la nécessité d'une économie nationale compétitive sur le marché mondial est de plus en plus forte. C'est pas simplement des slogans néolibéraux, c'est une réalité. Et donc, effectivement, ça rétrécit la marge de manœuvre pour des réformes, puisque, par exemple, augmenter significativement les salaires en France, ça diminuerait la compétitivité des entreprises françaises, si du moins on touche pas au profit. Alors ça, c'est une autre question. Mais disons que si on touche pas significativement au profit et qu'on augmente juste les salaires, qui est globalement le programme de la social-démocratie actuelle avec Mélenchon, eh bien, inévitablement, ça entraînera une perte de compétitivité pour les entreprises françaises. Donc, par exemple, moins de commandes pour les entreprises françaises qui dépendent des commandes venues de l'étranger. Et donc, évidemment, ça peut avoir des conséquences, disons, une sorte de retour de bâton avec, du coup, la nécessité de devoir de licencier, des entreprises en faillite, etc., etc. Je dis pas ça pour justifier, disons, le martèlement néolibéral de l'impératif de compétitivité. Mais disons que si on ne touche pas au profit, évidemment, il ne peut rien se passer. Alors, on peut se dire, du coup, bon, effectivement, si la marge de manœuvre est étroite, parce que on peut pas augmenter les salaires et on peut pas vraiment augmenter les budgets sociaux, par exemple, sans que ça entraîne un accroissement du niveau de l'endettement de l'État et donc un accroissement des intérêts à payer, etc., etc., ou que l'augmentation des salaires entraîne, du coup, une baisse de compétitivité et du coup moins d'exportations et donc effectivement une économie française qui marche moins bien et donc potentiellement à la clé des licenciements, etc., etc., ou des nécessités de, par exemple, de rebaisser les salaires, il y a effectivement toujours, là on se dit, effectivement la possibilité de s'attaquer au profit. Alors évidemment, la social-démocratie va penser ça aujourd'hui sous la forme de taxation. Essentiellement. C'est difficile de contrôler vraiment à la source la répartition entre profit et salaire. Donc, a posteriori, les profits peuvent être taxés sous la forme de l'impôt sur le revenu. On peut essayer de penser à des taxes financières, etc., etc. Le problème, c'est que dans ce cas-là, le capital, s'il estime, et c'est ce qui se passe aujourd'hui depuis 30 ou 40 ans, et même d'ailleurs dans une certaine mesure avant, s'il estime qu'il est trop maltraité, entre guillemets, dans un pays, il va se déplacer dans un autre pays, où la fiscalité est plus avantageuse, où les impôts sont moins élevés, etc. D'ailleurs, la France, contrairement à ce qu'on peut entendre, n'a pas une fiscalité si dure envers les entreprises, c'est pour ça que les entreprises restent, malgré ce qu'on en dit. Mais effectivement, si la France décidait d'avoir une fiscalité beaucoup plus progressive, qui taxe beaucoup plus les riches et surtout qui taxe beaucoup plus les entreprises auraient tendance à délocaliser encore plus, délocaliser leurs sièges sociaux, etc., etc. Ce qui, du coup, aurait des retombées économiques négatives et dans une société capitaliste, l'économie, c'est ce qui gouverne toute la vie sociale. Et donc aussi, ça veut dire que l'économie marchant moins bien, étant en crise, évidemment, ça aurait des retombées sur la vie des gens, moins de salaires, des licenciements, etc., etc. Donc on n'est pas là dans de l'abstraction, on est sur des choses très concrète pour la vie des gens. Alors évidemment, je dis pas ça pour justifier les programmes néolibéraux, mais c'est pour dire que aujourd'hui, l'État n'a pas vraiment les moyens d'adopter, disons, une politique des petits pas et des petites réformes qui résoudraient miraculeusement tous les problèmes. Parce que le capitalisme étant mondialisé, chaque État, individuellement en tout cas, n'a pas les clés en main. Et quant à penser que tous les États régulent le capital, ils n'ont pas intérêt puisque... Et là, on rentre un peu dans des considérations géopolitiques, mais il faut les évoquer rapidement. L'État dont l'économie fonctionne le mieux, par exemple en ce moment, les dernières années, c'était la Chine. Eh bien, ça veut dire plus d'impôts, ça veut dire plus de dépenses militaires potentielles. Et donc, une économie qui fonctionne bien, qui est plus compétitive que les autres économies, eh bien, ça veut dire aussi un État plus puissant, notamment militairement et géopolitiquement. C'est pour ça que les États-Unis sont la première puissance mondiale jusqu'à aujourd'hui, militaire, parce que aussi c'est la première puissance économique. Et c'est pour ça que la Chine, qui était pas vraiment une puissance géopolitique il y a encore 30 ou 40 ans, est devenue une véritable puissance géopolitique aujourd'hui parce que c'est devenu une puissance capitaliste économique majeure. Donc, les États n'ont pas intérêt, disons, à réguler le capital à l'échelle internationale, à la fois pour eux, pour leur propre puissance, et parce que la grande bourgeoisie de leur pays en profite. Et comme la grande bourgeoisie est souvent proche des milieux de pouvoir, voire dirige en partie directement l'État, eh bien évidemment, ça a peu de chances de se produire. Alors évidemment, du coup, ça nous laisse la possibilité, si on veut vraiment, entre guillemets, changer les choses, réduire les inégalités, etc., etc., faire des réformes, entre guillemets, radicales, en réalité, la seule possibilité, c'est la rupture avec le capitalisme mondial. Et la rupture avec le capitalisme mondial, les seuls exemples qu'on connaît, c'est l'Espagne en 1936 et la Russie en 1917, de deux manières très différentes. En Russie, en 1917, qu'est-ce qui s'est passé? Les bolcheviks ont pris le pouvoir en octobre 1917 et en 1918, ils ont commencé à nationaliser l'économie, exproprier la bourgeoisie russe et aussi refuser de rembourser les dettes aux capitalistes français et britanniques notamment qui avaient investi dans l'économie russe. Donc évidemment, ça a provoqué la fureur des gouvernements occidentaux et notamment des gouvernements qui représentaient des investisseurs en Russie. Il y avait une menace aussi que la révolution se propage, et donc évidemment, guerre civile russe, intervention étrangère de pas mal d'armées, l'armée japonaise, l'armée américaine, l'armée française, l'armée britannique, etc., etc., soutien à la contre-révolution, bref, et derrière, 3 ans de guerre qui ont mis un peu le pays à feu et à sang. Donc c'est une possibilité, et effectivement, l'URSS, là-dessus, malgré tous ces défauts politiques et économiques sur lesquels on aura sans doute l'occasion de revenir dans un prochain épisode, a réussi la rupture avec la bourgeoisie, mais à quel prix? Au prix d'une guerre de 3 ans qui a mis à feu et à sang son économie, qui a fait des centaines de milliers, voire des millions de morts, qui a détruit une grande partie de son économie, qui a provoqué des famines, etc., etc. Et je rajoute un deuxième plan, parce que évidemment, c'est pas sans relation avec la nature de l'URSS. Certes, on aura l'occasion de le développer dans un autre épisode. Le projet marxiste-léniniste de prendre le pouvoir d'État et d'instaurer une nouvelle économie intégralement contrôlée par l'État, et où finalement, ce n'est pas les classes populaires qui sont directement au pouvoir par le biais d'une forme de démocratie directe, mais c'est le parti bolchevique qui est censé représenter les intérêts des classes populaires qui est à la tête de l'État, et qui dirige de manière autoritaire le pays, évidemment, ce projet était d'ores et déjà problématique sur pas mal d'aspects, politiquement notamment, et même dans une certaine mesure, socialement et économiquement, on y reviendra dans un autre épisode. Mais surtout, évidemment que la guerre civile de 1918 à 1921 n'a pu que renforcer les tendances autoritaires, bureaucratiques, dictatoriales et militaristes du projet léniniste. Dans le sens où, de facto, ça a créé, par exemple, le besoin effectif d'une armée et d'un commandement centralisé, qui pouvait être plus efficace militairement que simplement des milices autonomes à travers le pays. En tout cas, c'est ce que les bolcheviks croyaient, et effectivement, c'est ce qui leur a permis, in fine, de gagner la guerre civile russe. Et évidemment, c'est sûr que ça a créé donc une armée à partir de rien, l'armée rouge. Bon, ils ont récupéré des anciens officiers, mais enfin, peu importe. Et donc, ça a créé une espèce de besoin d'État et de bureaucratie pour gérer cette espèce d'énorme machine qui était l'armée rouge. Et évidemment que, à partir du moment où ça a rendu nécessaire que des millions de personnes obéissent aveuglément à un commandement militaire, c'est sûr que ça a favorisé en même temps la naissance d'une bureaucratie qui avait du coup intérêt à ce que cet état de fait, c'est-à-dire le fait qu'il contrôle l'économie de guerre, que ça se perdure après la paix, même si le projet léniniste était problématique politiquement depuis le début, c'est sûr qu'effectivement la guerre civile en Russie et la forme de guerre mondiale qu'il y a eu en Russie entre 1918 et 1921 a accentué toutes ces tendances qui vont faire que l'URSS ne sera pas du tout une expérience d'émancipation sociale. Donc voilà, c'est une des possibilités, mais enfin on voit que finalement c'est pas non plus une possibilité à prendre à la légère, surtout quand on sait ce qui vient derrière, c'est-à-dire l'URSS. La deuxième possibilité, c'est plus l'Espagne 1936. C'est-à-dire que en 1936, il y a un coup d'État par Franco, je vais rapidement, on y a consacré plusieurs émissions, et dans certaines zones du pays, en Catalogne notamment, mais surtout en Aragon, ce qui se passe, c'est que là, ce n'est pas un parti qui prend le pouvoir, ce sont les classes populaires qui prennent le pouvoir et qui instaurent un nouveau modèle de société. En Aragon, ça s'appelle le communisme libertaire. Et au lieu finalement d'avoir une économie qui est dirigée par l'État, c'est une économie qui s'affranchit des contraintes impersonnelles du marché parce qu'elle est fondée sur le principe de chacun selon ses moyens, chacun selon ses besoins. Et donc, les gens produisent ce dont ils ont besoin, collectivement, et ensuite, il y a une répartition qui se fait en fonction des besoins et non pas en fonction de la quantité d'argent et du pouvoir d'achat. Donc ça, c'est un autre modèle de société et une autre forme de rupture avec le capitalisme qui, du coup, permet d'échapper à ces contraintes impersonnelles du capitalisme mondial dont on a parlé et qui font qu'aujourd'hui, la social-démocratie traditionnelle ne peut plus mettre en place son petit programme minimal qu'il pouvait encore mettre en place, disons, il y a encore 70 ans ou un siècle. Le problème, c'est que, évidemment, on le sait bien, la révolution espagnole a fini par être écrasée, à la fois par le fascisme, mais aussi par d'autres forces géopolitiques, on va pas revenir dessus, mais notamment par le stalinisme, et aussi, dans une certaine mesure, par la non-assistance des pays capitalistes occidentaux comme la France et la Grande-Bretagne. Donc, je pense que c'est pas évidemment pour désespérer tous les auditeurs et les auditrices que je dis ça, c'est pas pour dire, bon, tirons-nous une balle, de toute façon tout est fichu, puisque soit on élit la social-démocratie au pouvoir et elle ne sera rien capable de faire puisqu'elle n'a pas de marge de manœuvre, soit on fait une rupture révolutionnaire, soit la version marxiste-léniniste qui fait peu rêver, mais soit. Et du coup, c'est la guerre avec la bourgeoisie mondiale et la bourgeoisie nationale, la guerre civile, et derrière, un risque très fort, moi je dirais à 100%, mais un risque très fort, disons, d'avoir un État bureaucratique, liberticide, en place, tel qu'a été l'URSS de Staline, mais même déjà un peu avant de Trotsky et de Lénine. Ou alors, effectivement, là, c'est beaucoup plus sympathique, plutôt l'Espagne 1936, mais ça n'échappe pas au fait qu'il y a quand même une guerre civile, des affrontements violents, et finalement des expériences qui ont été incroyablement riches en termes d'imaginaire de ce que pourrait être une société post-capitaliste. On y a consacré plusieurs épisodes qu'on mettra en lien sur la page de l'émission, mais pour autant qui ont fini par être écrasés militairement, pris en étau entre d'un côté les forces du général Franco et de l'autre les forces staliniennes. Donc simplement pour dire, la sortie du capitalisme, c'est quelque chose de compliqué et que c'est pas un petit coup de baguette magique en élisant un gouvernement social-démocrate de gauche radicale entre guillemets comme on dirait aujourd'hui, que ça va résoudre les problèmes.
Ce que tu dis là est très intéressant, surtout à l'heure où le capitalisme détruit littéralement les bases mêmes de la survie de l'humanité, et où la perspective d'en sortir devient presque une nécessité. Une nécessité de survie pour nous tous, en fait. La compréhension de la nécessité d'en sortir et de comment en sortir est extrêmement grande.
Oui, oui, bien sûr. C'est sûr que la crise écologique rend tout ça beaucoup plus impérieux. Alors évidemment, il y avait déjà un impératif de sortir du capitalisme avant, parce que le capitalisme repose sur l'exploitation et des conditions de matériel mauvaises, et des conditions psychiques aussi, des vies de merde, concrètement, d'une grande partie de l'humanité. En dehors, on va dire, d'une partie des classes moyennes occidentales et du grand capital, etc. Donc ça fait peu de monde au final. Donc il y avait un impératif social. Mais c'est vrai que maintenant, on peut se dire, bon, c'est un impératif relatif. C'est-à-dire que c'est un impératif pour une grande partie de la population, et en soi, c'est déjà suffisant comme motif pour sortir du capitalisme. Mais là, il y a un nouvel impératif, effectivement, qui rend ça peut-être encore un petit peu plus impérieux, dans le sens où, effectivement, là, c'est les conditions même de survie de l'humanité qui sont en jeu, comme tu l'as dit. Et effectivement, là, tous les discours que j'ai pu tenir sur la question des contraintes impersonnelles du capitalisme se rejoue aussi au niveau de l'écologie. C'est-à-dire que les États, aujourd'hui, promettent d'adopter des réformes écologiques. Comme avant, on parlait des réformes sociales qui rendraient le capitalisme à visage humain, un capitalisme sympathique, où tout le monde serait heureux, etc. Et là, c'est un petit peu la même version, mais version écologique, version capitalisme vert. Or, le problème, c'est que, on sait bien, le capitalisme vert est une vaste fumisterie, mais, et c'est là peut-être le point de vue un peu plus spécifique de cette émission, ce n'est pas une fumisterie uniquement parce que les gouvernements le veulent bien, mais c'est aussi que dans une certaine mesure, le capitalisme reposant de manière structurelle sur une production énorme de marchandises pour réaliser du profit et pour faire fonctionner les économies, et donc pour faire fonctionner aussi les États qui dépendent du bon fonctionnement de l'économie, eh bien, cette production énorme et cette consommation énorme de marchandises, eh bien, elle a un impact écologique énorme aussi. Et alors, on aura l'occasion d'y revenir, mais ces contraintes sont de plus en plus fortes liées à la crise du capitalisme depuis 2008 et peut-être de manière un petit peu plus structurelle depuis les années 70. C'est un passage technique qu'on abordera dans un autre épisode. Mais disons que le capitalisme a besoin de croître, non pas parce que ce serait une idéologie de la croissance à laquelle il faudrait opposer la décroissance, non pas parce que ce serait le méchant secteur privé qui déciderait de bousiller la planète, mais avec une planification écologique dirigée par l'État, tout irait mieux. En réalité, même un gouvernement qui mettrait en place une planification écologique serait soumise aux mêmes contraintes impersonnelles du marché dont on a déjà parlé. C'est-à-dire que si on élève trop fortement les normes environnementales, c'est la même chose que si on augmente trop les salaires, eh bien ça baisse la compétitivité de l'économie nationale à l'échelle mondiale, et donc ça crée tout un tas de problèmes économiques, et donc pour le financement de l'État, et donc potentiellement pour le financement des services publics. Et aussi, il faut bien avoir conscience que non seulement la planification écologique à l'échelle d'un État, en fait, cet État devant tenir compte quand même des contraintes impersonnelles du marché pour faire fonctionner l'économie, ne pourrait que réduire par exemple de quelques pourcents éventuellement les émissions de CO2, mais guère plus, ce qui ne changerait rien au problème. Mais surtout, évidemment, la solution aux problèmes environnementaux doivent être pensés à l'échelle globale. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait qu'il y ait des gouvernements sociodémocrates à l'échelle mondiale qui adoptent des régulations environnementales. Le problème, c'est que, encore une fois, les États n'ont pas intérêt à faire ça, puisque les États qui maintiennent des standards écologiques plus bas, qui vont moins taxer les entreprises polluantes, etc., du coup, elles ont un avantage compétitif sur le marché mondial, et donc leur économie marche mieux, et donc leurs États marchent mieux, et donc ces États sont plus forts géopolitiquement, et leurs bourgeoisies font plus de profits. Donc on voit bien, encore une fois, sur la question écologique comme sur la question sociale, qu'il y a des contraintes impersonnelles qui pèsent, et qu'un gouvernement social-démocrate écologiste, finalement, n'arriverait pas à faire grand-chose, parce que il serait impuissant à réformer le capitalisme dans un sens vraiment écologique, puisque le capitalisme a besoin, les entreprises ont besoin, et les, donc les États ont besoin, puisque les États dépendent pour leur financement des impôts, de croissance économique. Et cette croissance économique, dans une large mesure, ne peut se réaliser que par des émissions de CO2 gigantesques et un impact écologique plus généralement gigantesque et croissant d'ailleurs.
Du coup, moi je dirais qu'on peut voir plusieurs contradictions à la pensée écologiste social-démocrate. C'est-à-dire que l'État, pour réformer l'économie, il a besoin d'énormément d'argent, du coup énormément de croissance. Et du coup, en fait, l'État, pour être puissant, pour pouvoir réformer la société dans un sens écologiste, il doit, en fait, il a besoin d'un capital puissant. Et du coup, il y a une contradiction dans les termes, parce que l'État, il doit s'attaquer au capital pour réduire la croissance, mais en même temps, pour réformer la société, il doit faire fructifier le capital. Et pareillement, c'est la société qui a besoin du capital, parce que toute la société dans le système capitaliste dépend structurellement du capital. Du coup, on voit qu'il y a plusieurs contradictions du fait de s'attaquer au capital sans le supprimer, en fait.
Oui, oui, bien sûr. En fait, le problème, c'est que les mouvements sociodémocrates qui prétendent réformer le capitalisme et donc s'attaquer au capitalisme, d'où le fait qu'ils se disent en partie anticapitalistes, le problème, c'est qu'ils sont dépendants du bon fonctionnement du capitalisme national pour pouvoir implémenter leur programme, qu'il soit écologique ou social. Et donc, effectivement, il y a là une contradiction, puisque s'ils veulent que leur économie fonctionne bien, il ne faut pas qu'ils élèvent trop les salaires, il ne faut pas qu'ils grèvent trop le budget de l'État avec les dépenses sociales et éducatives et sanitaires et écologiques, même si ces dépenses, finalement, par rapport aux dépenses militaires, sont faibles, mais tout de même. Et donc, ils sont, en fait, pris en étau. Et ce qui fait que, en général, une fois au pouvoir, ils vont préférer faire fonctionner bien l'économie, parce que faire fonctionner bien l'économie, c'est l'assurance de la tranquillité sociale dans une certaine mesure, c'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir de guerre internationale, de guerre économique, la grande bourgeoisie ne va pas les attaquer. C'est aussi l'assurance que finalement les gens vont être en colère parce que on n'a pas respecté leur programme, mais au moins, par exemple, au moins ils auront toujours leur emploi, ou voilà, on ne va pas faire de politique économique trop audacieuse qui pourrait se retourner contre nous. Et donc effectivement, comme tu dis, la marge de manœuvre du mouvement social-démocrate et des partis sociaux-démocrates aujourd'hui est extrêmement faible. Ils peuvent faire quelques ajustements par-ci par-là à un niveau écologique comme à un niveau social, mais au final, on voit bien que si on veut vraiment améliorer les conditions de vie des gens, et si on veut permettre à l'espèce humaine de survivre, il y a une nécessité de rupture avec le capitalisme, et pas simplement de prise de pouvoir par le processus des élections, et ou de quelques réformes adoptées sous pression du mouvement social, parce que la grande bourgeoisie ne laissera pas faire, et les contraintes impersonnelles du capitalisme rendent complètement, ou en tout cas relativement impossible.
Mais on pourrait même ajouter que un État qui ne se laisse pas croître deviendrait rapidement une proie facile dans la concurrence interétatique. En fait, il y a vraiment un mur, en fait, par rapport à cette perspective.
Oui, oui, bien sûr. Bah, l'exemple de la Grèce, c'est un bon exemple. C'est un État capitaliste qui a failli. Et d'ailleurs, c'était le cas aussi de pas mal de pays anciennement colonisés dans les années 80, quand ces pays avaient connu leur propre crise de la dette. C'est que, croulant sous les dettes, ces pays sont obligés de rembourser leurs dettes, sauf à rompre avec l'ordre bourgeois, avec toutes les conséquences néfastes que j'ai déjà évoquées, et donc du coup sont obligés d'accepter un certain nombre de choses qui les rendent effectivement des proies du capital international, d'où le fait que par exemple la Grèce a été obligée de vendre des ports, a été obligée de vendre tout un tas de choses centrales dans l'économie grecque, et qui ont affecté durement la vie des gens, et d'où le fait que souvent, ils sont obligés aussi de libéraliser l'économie, de mettre fin à certaines subventions qui permettaient aux gens de payer certaines denrées moins chères. Donc effectivement, c'est ça la contradiction dans le capitalisme, c'est que ce genre de réformes social-démocrates ne sont possibles dans une certaine mesure que dans les grands pays capitalistes, mais le problème, c'est que ce genre de réformes social-démocrates, si elles sont vraiment poussées vraiment dans un sens social et écologique, affaibliraient la position de l'État, et finalement rendrait, au bout d'un certain nombre de temps, impossible toutes ces réformes social-démocrates, et même rendrait possible, au contraire, des formes de capital beaucoup plus dures, avec notamment, comme en Grèce, ou comme dans un certain nombre de pays aujourd'hui, des formes d'austérité beaucoup plus radicales que ce qu'on connaît aujourd'hui en France.
Mais du coup, peut-être qu'il y aurait une objection avec l'actualité de Biden en ce moment, et de ses réformes qu'il met en place. que pourraient nous faire les sociodémocrates. Imaginons la perspective où assez fantasque, où les États des centres capitalistes, les États les plus puissants comme les États-Unis, deviendraient un peu l'avant-garde social-démocrate de la transformation écologique et entraîneraient les autres États dans cette perspective. Parce que au final, c'est un peu ce que pensent Mélenchon et la France insoumise. Ils croient en la puissance économique de la France et à sa capacité à devenir à s'autodéterminer dans le monde capitaliste.
Oui, oui, bien sûr. Bah, c'est sûr que effectivement, des États comme les États-Unis ont une marge de manœuvre beaucoup plus forte que d'autres pays, parce qu'ils ont effectivement une économie qui est déjà très puissante. Mais si on regarde bien le contenu des réformes, notamment écologiques de Biden, ce sont des réformes qui ne touchent pas fondamentalement aux bases du capitalisme américain, notamment par exemple la Silicon Valley, le fait que le capitalisme américain repose en partie sur le développement du capitalisme numérique, et notamment des GAFAM. Et on sait que le capitalisme numérique représente aujourd'hui déjà 6% des émissions de CO2. Ce pourcentage est amené à croître au fur et à mesure du temps. C'est-à-dire que, effectivement, il y a une marge de manœuvre d'autant plus forte que le pays est puissant. Et effectivement, les réformes peuvent être d'autant plus fortes que le pays est plus puissant, mais il ne faut pas que fondamentalement ça nuise à sa compétitivité. Prenons par exemple l'exemple du Bangladesh ou du Vietnam. Ce sont des économies qui sont très largement basées sur des industries à faible coût, etc., etc., avec des infrastructures énergétiques qui sont relativement peu efficaces. Un tournant écologique, la moindre forme de réforme écologique dans ces pays serait catastrophique, puisque tout leur modèle repose sur le fait qu'ils ont des standards environnementaux et sociaux très très bas. Et c'est ça qui est à la base de toute leur compétitivité. Par contre, si on prend au contraire le Japon ou les États-Unis, où l'essentiel de leur compétitivité ne vient pas du fait qu'ils ont une main-d'œuvre très mal payée et des standards environnementaux très bas, mais plutôt du fait qu'ils sont, disons, dans le processus de production, ils ont la place la plus avantageuse, c'est-à-dire la maîtrise des nouvelles technologies, dans un langage économique, on dirait qu'ils sont en haut de la chaîne de valeur, c'est-à-dire qu'ils sont ceux qui vont se faire le plus d'argent sur le produit fini. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend un meuble IKEA, c'est l'entreprise IKEA en Suède qui a simplement designé les produits, qui a réparti les tâches à faire à des entreprises sous-traitantes qui va se faire le plus d'argent. Et par contre, plus on descend dans la chaîne de valeur, moins c'est du travail qualifié, etc., etc., moins il va y avoir de revenus, c'est-à-dire que les personnes, entre guillemets, qui vont simplement aller couper du bois dans l'Indonésie, elles vont être très très mal payées. Et donc, effectivement, en fonction de la position dans la chaîne de valeur mondiale, il y a des possibilités de réforme plus ou moins importantes. Le problème, c'est que si ces pays veulent maintenir ces quelques réformes, il ne faut pas qu'ils touchent fondamentalement à leur place, justement, dans la chaîne de valeur qui dépend justement de leur compétitivité. Et du coup, si Biden adoptait des mesures écologiques tellement radicales que ça mettrait en cause les intérêts de la Silicon Valley, d'une certaine manière, il scierait la branche sur laquelle il est assis, puisque du coup, ça provoquerait évidemment une récession de l'économie américaine, puisque une partie de son modèle de croissance dépend du développement du capitalisme numérique, hein, même s'il faut pas en exagérer l'importance, hein, c'est simplement un exemple. Ça ferait que du coup, il aurait moins d'argent à dépenser, notamment pour des réformes écologiques.
Et du coup aussi, vu que cette chaîne de valeur, elle est basée sur l'impérialisme, au final, leur puissance vient aussi des pays qui ne peuvent pas amener des réformes écologiques.
Exactement, c'est exactement ça. Je pense que le meilleur exemple là-dessus, c'est la Suède. La Suède est un pays qui, à une époque, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais avait promis de sortir complètement d'une économie carbone d'ici 2020 ou 2030. Voilà, effectivement, ils ont adopté un certain nombre de réformes écologiques qui font que c'est un des pays les plus efficaces énergétiquement sur leur propre territoire en termes de production, sans commune mesure, par exemple, avec le Bangladesh ou le Vietnam. Le problème, c'est que quand on regarde l'économie suédoise dépend pour son bon fonctionnement, notamment au niveau de ses importations, et aussi au niveau de dans quel pays on produit les produits qui sont estampillés suédois, par exemple les meubles IKEA. Et ben on voit qu'en fait, ces pays sont des pays justement qui ont des standards environnementaux et sociaux extrêmement bas. Et donc c'est précisément parce que ça coûte très peu cher de couper des forêts en Indonésie, que du coup, la Suède peut préserver ses propres forêts tout en faisant du profit en vendant des meubles IKEA. Ce qui fait que la possibilité pour certains pays comme la Suède, et bien effectivement, ces pays-là peuvent se targuer d'être écologistes, d'avoir une économie qui est localement décarbonée, tout en ayant un modèle de croissance qui repose intégralement sur le fait que ailleurs on va polluer pour qu'il reste en haut de la chaîne de valeur et que du coup il soit une économie soi-disant décarbonée. Et deuxièmement, c'est aussi une économie qui va massivement dépendre d'importations de produits qui vont pas être faits sur leur territoire. Donc localement en Suède, il y aura pas de pollution liée à la production de plein d'objets de manufacturés. Et en réalité, ça va être produit en Chine, au Vietnam ou au Bangladesh, où là, l'impact écologique local sera extrêmement fort. Et au final, de toute façon, ça ne change rien, puisque finalement, les émissions qui ne sont pas émises en Suède vont être émises ailleurs, finalement, pour que le modèle économique suédois marche. Donc au final, le bilan carbone global, par exemple de la Suède, finalement, ça ne change rien. C'est simplement une question d'image, de verdissement du capitalisme suédois.
Donc on pourrait dire que l'écologie politique occidentale repose entièrement sur l'impérialisme économique.
Oui, en partie sur l'idée que finalement, nous, on est vertueux et qu'on va faire des réformes écologiques, etc., etc. C'est parce qu'on est en haut de la chaîne de valeur et qu'on bénéficie du fait que certains produits manufacturés qu'on consomme, certains biens alimentaires qu'on consomme, notamment notre consommation de papier ou de tout ce qui est lié au bois, va être fait ailleurs et va détruire la planète ailleurs. Et au final, ça change rien sur le bilan carbone global, mais simplement, ça donne bonne conscience écologique. Et puis ça permet éventuellement de mieux respirer. Ça, c'est tous des enjeux finalement de l'écologie sociale qu'on a développé notamment dans une émission. Et ça marche aussi pour la France, c'est-à-dire qu'on se rend bien compte qu'en France aussi, les endroits qui sont le plus en bas de la chaîne de valeur vont être aussi les endroits les plus pollués. Ils vont être aussi ceux qui vont être habités par les classes populaires et notamment les classes populaires racisées.
Il y aurait peut-être un autre exemple plus farfelu, c'est-à-dire est-ce qu'on pourrait penser que l'État chinois, la République populaire de Chine, est un exemple de social-démocratie opérante, un exemple où l'État possède une partie du capital et peut donc orienter les choix du capitalisme national et du coup pourrait être un peu le fer de lance écologique du 21e siècle, comme il se prétend lui-même d'être, quand il ne se prétend pas le champion du libre-échange mondial.
Oui, c'est une question intéressante. D'ailleurs, ça permet aussi de revenir sur le concept de social-démocratie qu'on a utilisé tout au long de l'émission, et simplement pour dire que la social-démocratie, historiquement, c'est une référence globalement à la gauche, qui est parlementaire, c'est-à-dire qui accepte l'idée qu'on va prendre le pouvoir par le biais des élections. Donc c'est le côté démocratique de social-démocratie. C'est ce qui les différencie par exemple du marxisme-léninisme qui considère qu'il faut prendre le pouvoir par une révolution ou un putsch. Et social, évidemment, parce que ça a une prétention finalement à réaliser petit à petit, par des petites réformes, le socialisme. Précision faite, donc dans cette mesure-là, effectivement, le modèle chinois marche pas très bien comme exemple de social-démocratie, puisque le Parti communiste chinois a pris le pouvoir par la force, par une forme de révolution, de guerre civile, etc. C'est assez complexe, mais enfin voilà. Sur le reste, effectivement, c'est un exemple de social-démocratie non-démocratique, si on peut se permettre ce genre d'oxymore, dans le sens, effectivement, ils ont réussi à contrôler une grande partie de l'économie. D'ailleurs, dans ce sens-là, c'est pas tellement qu'ils ont, comme Mitterrand en 80, nationalisé une partie des entreprises, c'est qu'ils ont pris toutes les entreprises et ensuite ils en ont libéralisé certaines au fur et à mesure du temps. Effectivement, ils représentent, disons, le gouvernement aujourd'hui qui a probablement la plus grande marge de manœuvre en termes de contrôle de son économie. Ils contrôlent l'ensemble des secteurs économiques clés. Enfin, c'est sûr qu'effectivement, ils auraient la possibilité d'adopter, par exemple, théoriquement, hein, un virage écologique assez radical. Le problème, c'est que quand on regarde sur quelle base repose la République populaire de Chine, ça repose déjà sur un compromis politique et social qui est que la population chinoise accepte globalement la dictature du Parti communiste chinois, la privation de liberté, etc., etc., en échange d'une croissance économique très importante, de l'ordre de 8 ou 9%, et du fait que, globalement, ça permet à tout le monde de trouver un emploi, même un emploi de merde dans une usine pour fabriquer des iPhones, mais un emploi quand même, un peu d'argent, etc., etc. Et avec la possibilité d'espérer que ses enfants vont mieux s'en sortir, etc. Donc, ce qui fait que, si l'État chinois sapait fondamentalement son modèle économique en adoptant des réformes écologiques qui compromettraient son modèle de croissance, sa compétitivité internationale, etc., d'une certaine manière, ils cirent la branche sur laquelle ils sont assis politiquement. Donc, ils n'ont pas vraiment intérêt à faire ça. Et puis, deuxièmement, plus généralement, en tant que, là, en partie capitaliste, hein, puisqu'il y a des membres du Parti communiste chinois qui sont aussi des capitalistes en même temps, disons la grande bourgeoisie chinoise qui est très liée avec la grande bourgeoisie d'État du Parti communiste chinois, s'il y avait des réformes écologiques et ou sociales dans les deux cas, dans le cadre du capitalisme, c'est plus de coûts de production, cette augmentation des normes environnementales et sociales, si elle était trop importante, elle compromettrait la compétitivité des entreprises chinoises qui dépendent énormément de l'exportation sur les marchés occidentaux de leurs produits. Et donc, ça entraînerait une baisse des profits pour les capitalistes chinois, ce dont ils n'ont pas envie, et ça compromettrait le bon fonctionnement de l'économie chinoise qui est très très dépendante des exportations, plus encore que par exemple des économies comme la France ou les États-Unis. Donc d'une certaine mesure, là, le gouvernement chinois est peut-être le gouvernement qui aurait le plus moyen, disons, d'orienter drastiquement le capital dans un sens social ou écologique, mais dans le même temps, c'est finalement un gouvernement qui peut-être par rapport aux États-Unis ou la France, comme l'économie chinoise n'a pas encore complètement remonté la chaîne de valeur et dépend encore pas mal du fait qu'elle a une main-d'œuvre pas trop chère, au moins en partie, eh bien, finalement, c'est un gouvernement qui, finalement, a finalement moins de marge de manœuvre, finalement, que les États-Unis de Joe Biden, en termes de possibilités concrètes économiquement de faire des réformes sociales et environnementales, puisque leur modèle est plus dépendant du fait qu'ils ont des normes environnementales et sociales relativement basses.
On peut dire qu'on a mis en lumière, à travers cette critique de la social-démocratie, deux aspects fondamentaux du capitalisme, c'est-à-dire sa structure de classe et sa structure impersonnelle, de domination impersonnelle du marché. On a pu donc voir que la social-démocratie, que sa capacité à agir politiquement et économiquement est extrêmement limitée, et d'autant plus avec les développements récents du capitalisme. On peut dire que la parenthèse social-démocrate s'est refermée après les Trente Glorieuses par les actions de classe et les contraintes structurelles de l'accumulation capitaliste.
We need hope for a change. Everything is going wrong, down, down bad. We need hope and a big change. Gotta break down the codes of this mad world. We need a change of society.
Alors, nouvel album de Little Bob, We Need Hope, comme quoi ça vaut le coup des fois de... Enfin bon, alors on discutait hors antenne de savoir ce qu'on pouvait amener et rajouter à 7h30 qu'on vous a proposé avec la rediffusion de cette émission. Et on disait qu'effectivement, le constat qui était dressé laissait assez peu d'espace à des possibilités de transformation réelle et radicale. Alors, une chose qui n'est pas mentionnée dans la discussion entre Vincent et Armand, c'est également la limite et la contrainte écologique.
Oui.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le capitalisme s'est développé, a conquis quasiment l'intégralité de la planète. Hein. Il n'y a jamais eu autant de personnes salariées dans le monde. Hein. C'est-à-dire qu'en échange d'une activité, on reçoit de l'argent ou un salaire et donc on achète, on est contraint à devenir consommateur, c'est-à-dire à la fois travailleur et consommateur, et que ça, c'est pas un scoop, hein. On en parle de plus en plus. Malheureusement, un système infini dans un monde fini, ce n'est pas possible. Et les contradictions qui pouvaient auparavant être dissimulées, les contradictions des ressources naturelles, sont en train d'apparaître de manière criante. Et évidemment, à l'intérieur de ces contraintes et de ces contradictions, la compétition pour l'accès à ces ressources, pour les matières premières ou pour le contrôle ou pour la gestion de ces ressources, deviennent de plus en plus aiguës. Et les impérialismes entrent en concurrence les uns avec les autres, ce qui fait que régulièrement, on arrive à des situations de conflit et de guerre.
Et de guerre, oui. Et ça, je crois qu'on peut dire que ce qui se passe en Ukraine, mais aussi ailleurs, ça va se poursuivre et ça va s'amplifier, malheureusement.
Ça risque effectivement d'être une actualité qui vient de plus en plus régulièrement sur les écrans et dans la réalité de chacun. Alors bon, on disait également en antenne que fallait pas non plus être borné. Et aujourd'hui, il y a une grande partie de la population qui se trouve dans une situation difficile, voire extrêmement difficile. Hein. Dans un pays comme la France, on a de plus en plus de gens qui vont à l'aide alimentaire. On est 2,5 millions de personnes à bénéficier royalement du RSA, ce qui nous maintient à la fois un niveau de survie et nous permettre de consommer, ce qui nous empêche de basculer dans des formes d'économie informelle de manière totale. C'est-à-dire que malgré tout, il faut que les gens puissent vivre, hein, se nourrir, se chauffer, se laver, manger. Et donc il faut qu'ils trouvent de l'argent d'une manière ou d'une autre. Donc s'il n'y a pas ce RSA, il y a 1,5 million à 2 millions de personnes qui sont en nécessité d'avoir de l'argent. Hein. Là-dessus, le RSA, il joue clairement le rôle de pacificateur social. Hein. Faut pas non plus exagérer. Donc on ne peut pas non plus faire l'économie de dire que s'il y avait un vrai moment social-démocrate au sens où Armand et Vincent le définissent, bah il y aurait une partie des gens qui seraient soulagés, quoi. Enfin, temporairement, mais on va dire déjà à la fois pour arriver à ce moment-là, il faudrait des affrontements très importants à l'intérieur de la société. Et puis ensuite, ça serait peut-être bénéfique, mais en tous les cas, ça serait très temporaire, puisque les expériences antérieures qui étaient données là, que ce soit le Chili ou le Cameroun...
Ou la France en 81.
Ouais, voilà, montrent que le contre-coup, il est très fort.
C'est sûr qu'en 81, je me souviens, vu l'augmentation du SMIC qu'il y avait eu, il y a eu des tas de gens qui ont soufflé. Ouais. Bon, ils ont soufflé 2 ans, grosso modo 2-3 ans, pas plus malheureusement.
Alors moi, dans ma famille, on se rappelle avec émotion le RMI, parce que il y a quelques membres qui l'ont perçu et ça a été une vraie bouée de sauvetage pour certains.
Le RMI, c'est après quand même.
Oui, c'est après, ouais. Mais ça a été une grosse bouée de sauvetage pour quelques-uns. Donc ce qui peut être amené comme conclusion, ou en tous les cas comme piste sur ça, c'est que par la voie électorale et par la voie de la conquête des institutions, les chances de réussite, elles sont
nulles.
Elles sont nulles, carrément. Ouais.
Pour moi, elles sont nulles.
Faibles, extrêmement faibles.
C'est d'ailleurs pour ça que je ne me déplace pas pour voter. Voilà, c'est clair. Je ne pense pas qu'il y ait une possibilité, même minime, pour qu'on puisse... Alors effectivement, tu as raison. C'est sûr que si Mélenchon arrivait à être Premier ministre, comme il le dit, bon, il y aurait une partie de la population qui soufflerait, là, qui dirait, bon, voilà, ça, ouf, on va pouvoir bouffer, on va pouvoir se vêtir, etc. N'empêche qu'on sait très bien que ça ne changerait pas fondamentalement les choses, d'autant plus qu'il y en aurait pour 2 ans maximum, quoi.
Ouais, et puis en plus, les institutions de la Ve République telles qu'elles sont faites limiteraient quand même fortement les possibilités.
Mélenchon n'est pas con, c'est pour ça qu'il a pensé à la VIe République. Hein, c'est évident que les structures de la Ve République font que ça sera impossible. D'ailleurs, la cohabitation Mélenchon-Macron est rigoureusement impossible, à moins que Macron rentre dans sa coquille, comme l'avait fait Mitterrand au niveau de la prise de avec la droite.
Ça serait étonnant, étant donné la relation qu'il a au pouvoir, où il semble particulièrement en jouir à la fois dans ses attributs.
Alors,
et
effectivement, ce qui sera important dans ce cas-là, c'est ce qui va se passer dans la rue. Là, on peut dire que on peut en faire référence encore aux Gilets jaunes, mais aussi à un autre mouvement qui serait de ce même type. Il y aurait des possibilités d'émancipation pour effectivement un certain nombre de gens. Mais attention à la répression, évidemment.
C'est ça, qu'on a vu que ces derniers temps, à la fois dans ses moyens, dans ses capacités techniques, technologiques et législatives, et à la fois, on va dire, concrètement, dans, on va dire, sa capacité pratique, à savoir les bourrins et les flics, il y a une habituation à cogner sur la gueule des gens, physiquement et judiciairement. Mais ce qui pourrait être intéressant, c'est que cette potentielle crise institutionnelle qui découlerait pourrait peut-être déboucher sur une crise politique et une crise de régime. Sauf qu'il faudrait que, dans le même temps, il y ait des mouvements émancipateurs, comme tu l'as dit.
Et puis une réappropriation de la production.
C'est ça, qui puisse faire monter le niveau de conscience assez rapidement. Alors, l'intérêt, c'est que il y a une détestation du pouvoir dans son incarnation physique par l'intermédiaire de la clique politique qui nous a foutu les boules pendant 5 ans. Donc ça, c'est déjà une bonne base de départ pour discuter. Mais cette conscience, il faut qu'elle monte, et pour ça, il faut que le mouvement soit le plus autonome possible et le plus auto-organisé possible.
Parce qu'il est possible que ceux qui prendraient le pouvoir sifflent la fin de la récréation.
On n'est pas naïf quand on dit ça. Hein. On prend juste les exemples historiques qui sont passés. Le mouvement des Gilets jaunes, qui au départ était sur des bases de taxes, donc de vie et de questions matérielles très pratique et directe, on a vu à quel point les gens, quand ils se sont mis en mouvement, quand ils ont commencé à discuter, quand ils ont commencé à s'organiser, les questions type identitaire, culturel, raciste, elles ont été évacuées assez rapidement pour faire de la politique, produire de la politique, produire une représentation de soi-même, et alors là, aller vers quelque chose de révolutionnaire et d'insurrectionnel. C'est malheureusement la seule chose qu'on puisse espérer et souhaiter, et à l'intérieur de laquelle on espère que nous on pourra jouer le rôle qui nous revient, quoi, c'est-à-dire de diffuser ces idées d'auto-organisation, d'anticapitalisme et de transformation radicale du système.
Simplement pour vous dire que ce qui vous attend, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat! Et pas le capital.
Le problème, c'est qu'on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils n'ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, vous écoutez les Régors chaque semaine sur les Côtes-Garrigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims sur cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions.